Bonsoir à tous et merci pour cette organisation dont on vient de citer les principaux protagonistes à la base. Merci à eux. Organiser aujourd'hui ces rencontres européennes du social, c'est volontairement se situer dans un contexte politiquement mouvementé. Mais mouvementé, il était déjà ce contexte lorsque la FICEMEA a décidé de participer à cette rencontre. Au nom de la FICEMEA et en ouverture de ces rencontres, je voudrais moi aussi mettre un focus sur des problèmes d'envergure très sensibles et urgents qui nous intéressent aussi, je crois que nous serons tout à fait congruentes, qui nous intéressent aussi au premier chef vu les valeurs que nous entretenons et que nous voulons mettre en œuvre dans nos actions et dans nos réflexions. Et tout d'abord bien sûr les migrations. Et selon nos valeurs humanistes, les réponses que nous apportons ou que nous souhaitions apporter au phénomène perpétuel, vous le disiez, que sont les migrations, les réponses que nous apportons ou souhaitions apporter à ce phénomène ne sont pas les réponses qu'une partie des États européens veulent nous faire endosser. Présenter les déplacements de migrants qui cherchent à assurer des moyens de subsistance comme une manifestation de concurrence offensive entre des êtres humains contre des citoyens européens pour survivre ou pour vivre passe difficilement la rampe dans notre façon d'appréhender le monde. Nous sommes frères et sœurs d'infortune, mais nous avons des moyens pour parer à cette infortune. Sont-ils, seront-ils suffisants? Nous l'évoquerons sans doute au cours de ces journées. Deuxième coup de projecteur, il porte sur, vous l'avez dit aussi, la dualisation et la précarisation d'importants groupes sociaux de la société, sur la paupérisation croissante d'une partie de la population et sur les disparités importantes entre les situations des différents pays de l'Union européenne, puisque nous faisons les rencontres européennes du social. Dans nos échanges, nous devrons tenir compte, je pense, de ces grosses différences pour comprendre les concurrences qui s'instaurent entre travailleurs européens, mais aussi pour appréhender les différentes situations dans lesquelles se trouvent nos organisations, les organisations que vous représentez, et comment elles peuvent collaborer dans ce contexte d'inégalité. Et à titre indicatif, je trouvais intéressant de vous livrer quelques statistiques qui ne sont pas directement liées à l'approche de la pauvreté ou encore au sans-emploi, mais bien à l'emploi. Ainsi, par exemple, laissez-moi vous donner rapidement quelques éléments sur la notion de salaire minimum. 22 des 28 États membres de l'Union européenne ont fixé un salaire minimum. Les statistiques européennes, Eurostat, constituent trois groupes de pays. Un premier pays, Bulgarie, Lituanie, Roumanie, Lettonie, Hongrie, Croatie, République tchèque et Slovaquie, où, alors je ne vais pas vous donner le salaire minimum, je vais vous donner un autre chiffre qui est produit par Eurostat et qui est celui du standard de pouvoir d'achat, c'est-à-dire le salaire minimum qui est lié au prix dans chacun des pays, donc on appelle ça les standards de pouvoir d'achat. Eh bien, dans le premier groupe que je viens de vous citer, où le salaire minimum est inférieur à 500 euros, traduit en standard de pouvoir d'achat, cela donne moins de 750 standards de pouvoir d'achat à 546, donc pour les pays que je vous citais. Deuxième groupe, de 750 à moins de 1000 standards de pouvoir d'achat, 788 au Portugal, 938 en Espagne. Et alors, un troisième groupe, entre 1000 et 1579 standards de pouvoir d'achat au Luxembourg. Ce qui veut dire que entre le pays le plus bas et le pays qui a le minimum le salaire minimum le plus élevé, c'est-à-dire le Grand-Duché de Luxembourg, il y a 2,77. Il y a un rapport de 1 à 2,77 entre le standard de pouvoir d'achat le plus bas et celui le plus haut. Vous voyez, presque de 1 à 3, et je ne parle que de salaire minimum garanti. Ça donne une idée des configurations très très différentes dans lesquelles nous allons réfléchir et les gymnastiques réflexives importantes que nous devrons faire durant ces journées pour nous comprendre en tenant compte de nos réalités différenciées. Un quatrième coup de projecteur que je voulais mettre, il est évidemment sur tous les discours nationalistes et identitaires qui encouragent une concurrence entre individus, entre nations, et une concurrence qui prend des allures guerrières. Et donc la question qui se pose à nous, c'est comment pouvons-nous faire, fort de nos expériences, pour fédérer une parole qui puisse aller à l'encontre des discours d'extrême droite que l'on entend susurrer dans la bouche de ceux qui ont déjà entamé des champs guerriers. Comment contrer ce grand média de la haine qu'est devenu Facebook? Quel réseau d'entraide et de résistance pouvons-nous mettre en place envers des organismes qui développent leur action dans des pays gouvernés par des groupes politiques, pour le dire gentiment, aux tendances d'extrême droite? Comme en Autriche, comme en Pologne, comme en Hongrie, comme nous en connaissons en France, comme nous en connaissons en Belgique. À l'occasion de cette rencontre qui vise à préparer des propositions adressées à nos représentants de l'Union européenne, rappelons-nous que l'Europe s'est aussi instituée pour adoucir et réguler les concurrences entre États au sein de l'Europe. Ces concurrences qui entraîne des luttes entre des marchés économiques internationaux, ces concurrences pour lesquelles l'Europe s'est déchirée en 14-18 et puis rebelote en 39-45. Rappelons-nous aussi que ces conflits ne sont pas terminés, qu'ils se sont poursuivis sous des formes renouvelées et ne se sont jamais arrêtés depuis. Servons-nous des événements contemporains, les événements de ces dernières semaines, de ces derniers jours et encore d'aujourd'hui, comme les critiques virulentes contre le système démocratique, les politiciens, la représentativité et les exigences de participer au grand barnum de la consommation, au grand spectacle de la société pour envisager notre intervention dans le champ social. Analysons comment le travail social gère ces discours qui rendent réels la distinction entre, j'ouvre les guillemets, les élites de la société et je les ferme, et j'ouvre les guillemets, et le peuple et je ferme les guillemets. Ces distinctions imaginaires qui permet, telle qu'elle nous est proposée évidemment, qui permet une opposition rêvée du peuple et des élites sans préciser qui est qui et comment l'on devient l'un ou l'autre, ni dans quel rapport de force. Mais en même temps, chers amis, dans vos actions, dans vos environnements, reconnaissons les propositions importantes qui sont faites par des groupes de citoyens, leur partage, leur gestion, qui s'est conçue par eux comme la gestion de biens communs de notre société. Et c'est avec une grande curiosité, une grande avidité que j'espère que ces rencontres vont pouvoir nous montrer des expériences, des réussites, des espoirs rencontrés quant aux possibilités de travailler sur des propositions d'êtres humains déterminés par leur analyse des situations, y compris la leur, par une approche responsable et individuelle inscrite dans un projet collectif pour nourrir la démocratie qui n'est pas, à ma connaissance, ni un système figé, ni une marque déposée intouchable, à condition de respecter ces principes d'égalité, de liberté et de solidarité. Les thématiques qui sont soumises à nos réflexions vont nous permettre de développer des questionnements à leur propos et aussi à propos de nos actions et de nos valeurs, de nos pédagogies et de nos résultats. Ce questionnement devrait, à mon sens, déboucher sur la mise en évidence de changements positifs que nous actons, de victoires démocratiques à quelque échelle que ce soit, de ces victoires qu'engrangent des hommes et des femmes individuellement dans leur parcours, de ces victoires qu'engrangent des groupes de citoyens, des collectivités, lorsqu'ils prennent part de manière active, critique, responsable et solidaire à l'élaboration du présent et de l'avenir de nos sociétés. Et si je parle de victoire, c'est à dessein, car il me semble important aujourd'hui de faire des bilans positifs de nos avancées. Si nous nous interrogeons sur notre contre-pouvoir, sur nos résistances, répondons d'abord par l'inventaire des résultats politiques de notre travail social d'émancipation. Répondons par tout ce que la prise en compte des potentiels de chacun a permis par rapport à une société où ce qui est vanté, c'est la victoire du meilleur, comme s'il devait toujours exister une échelle compétitive entre les individus. Nous devrions profiter de ces rencontres pour avancer à ce propos sur notre capacité à nous solidariser au plan international. Les rencontres que la FICEMEA vient de tenir avec les quatre commissions régionales qui fédèrent ses membres dans l'océan Indien, en Amérique latine et dans les Caraïbes, en Afrique et en Europe, ces rencontres internationales vont dans ce sens et elles nous ouvrent de nombreux possibles. Interrogeons-nous sur nos actions et sur nos prétentions, car d'emblée, aujourd'hui, en tant que démocrates, nous savons que nous devons donner des réponses fortes et organisées. Nous provenons tous, je pense, de mouvements, d'associations qui poursuivent des objectifs de contre-pouvoir à côté des pouvoirs représentatifs. Le mouvement de l'éducation nouvelle nous y a engagés dès ses débuts en 1921. Historiquement, notre mouvement doit nous faire agir aujourd'hui dans ce sens. Je vous souhaite donc un bon travail sur un chantier extrêmement important quant à la défense de notre société, quant à la défense de la liberté, mais surtout aussi de l'égalité, quant à la défense aussi du travail d'éducation dans lequel nous sommes tous engagés. Je vous remercie, je vous souhaite surtout un très très bon travail et d'excellents résultats que nous pourrons développer par la suite. Merci.